des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Sophie Durocher.
Mon nom est Sophie Durocher.
Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence.
Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bon vendredi, très contente de vous retrouver. Et oui, je suis encore en vie en un seul morceau. Donc hier à 16h40, je me suis fait vacciner. Et oui, c'était un AstraZeneca. Ben, vous le savez, de toute façon, les 55 ans et plus, c'est de l'AstraZeneca. C'était assez particulier d'ailleurs, parce que quand on arrive sur le lieu de la vaccination, dans mon cas, c'était au Cusum, il y a des grandes affiches et partout, c'est marqué AstraZeneca. AstraZeneca, AstraZeneca, mais vraiment comme en grosses lettres pour être sûr qu'il y ait personne qui puisse se plaindre après en disant « Ben, je ne savais pas moi que c'était de l'AstraZeneca, j'en veux pas de ce vaccin-là! » Non, c'était vraiment très, très clair, très bien organisé, même si j'ai manqué de m'évanouir, mais heureusement, mon mari était là pour me recueillir dans ses bras accueillants. Bref, la vaccination avance et, je veux dire, en fin de semaine, on se plaignait du fait qu'il y avait 107 000 personnes qui étaient admissibles, qui s'étaient pas présentées. Ben, je pense qu'avec les images qu'on voit depuis 24 heures de gens qui se précipitent pour se faire vacciner, j'avoue que ça augure très bien pour le reste de la vaccination. Quand j'ai vu ça et quand je me suis fait inoculer ce vaccin, j'ai poussé un grand, ben voyons donc, de soulagement.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Si la question du français au Québec vous préoccupe, well, welcome to the club. Non, c'est une blague. Donc, si la question du français au Québec vous préoccupe, ben, vous êtes pas tout seul. Et il y a une étude récente de l'OQLF, l'Office québécois de la langue française, qui devrait tous collectivement nous inquiéter, puisque cette étude prédit un recul spectaculaire du français ici au Québec d'ici 15 ans. On va parler de tout ça avec Frédéric Bastien. Vous le connaissez bien, il est régulièrement invité sur les ondes de Cube Radio, historien, ex-candidat à la chefferie du PQ. Monsieur Bastien, bonjour.
Oui, bonjour Madame Durocher.
Je faisais une blague, évidemment, en disant « join the club », mais c'est vrai qu'au Québec, on a souvent tendance à parler un petit peu bilingue, à parler un peu franglais, mais quand on voit les chiffres de l'OQLF, il y a de quoi nous donner froid dans le dos.
Oui, en effet. En fait, ce que l'OQLF nous annonce, ils sont pas nécessairement les premiers à avoir fait ce genre de prédiction, là, mais ça ajoute quand même c'est un organisme officiel, l'Office de la langue française, et donc ils nous disent que le français comme langue parlée à la maison est en recul spectaculaire depuis déjà une dizaine d'années, et qu'on va continuer à reculer. Et là, on était il y a environ, une quinzaine d'années, je dirais, il y avait à peu près un peu plus de 80% de la population qui parlait français à la maison, et dans environ une quinzaine d'années, ça va baisser à autour de 75%. Donc, c'est un recul spectaculaire du nombre de locuteurs français comme langue à la maison. Et donc, il y a d'autres indicateurs, là, ça en est un, mais il y en a d'autres qui nous annonce et qui nous confirme en fait qu'il y a un recul extrêmement préoccupant du français au Québec depuis déjà plusieurs années et que ça va se poursuivre.
Est-ce que la question qui tue, Monsieur Bastien, est-ce que le Québec en fait assez et est-ce que l'immigration qui est présentée souvent comme étant une solution miracle, est-ce que c'est vraiment la solution ou ça va pas au contraire contribuer à l'anglicisation du Québec?
Ben, l'immigration, pour ce qui est du statut du français, l'immigration telle que nous la pratiquons en ce moment, c'est une des causes principales, hein, peut-être pas la seule, mais c'est certainement une des deux, trois causes les plus importantes du recul du français au Québec. Parce que on se fixe des objectifs d'immigration très élevés et qui font en sorte qu'on reçoit beaucoup d'immigrants qui ne parlent pas le français à leur arrivée au Québec. Et la conséquence de ça, c'est que vous arrivez au Québec, vous avez 20, 25, 30, 35 ans, peu importe. Alors là, j'exclus la population d'âge scolaire, donc les enfants d'immigrants qui vont aller à l'école française. Mais ça représente
grâce à la loi 101, oui.
Grâce à la loi 101, mais ça représente une toute petite partie de notre immigration. C'est ce qu'il faut comprendre. Et bref, ces gens-là, ils doivent gagner leur vie. Ils ont pas le temps d'aller à des cours de français. Ça n'a pas d'intérêt pour eux. Et comme à Montréal, là où se regroupent presque tous les immigrants, il y a des ghettos linguistiques, c'est possible de fonctionner qu'en anglais à Montréal. Eh bien évidemment, ces gens-là n'ont pas intérêt, n'ont pas l'incitatif à apprendre le français, évidemment. Mm-hmm. Ils peuvent se débrouiller avec l'anglais, eh bien évidemment, pour la même raison que, par exemple, Mme Durocher, si vous et moi, on va déménager au Maroc, ou on va passer 3 ans au Maroc, il y a très peu de chances qu'on apprenne l'arabe. Parce que le Maroc, on peut très bien vivre au Maroc seulement en français. Alors eux, évidemment, ils n'ont pas le problème que leur langue va disparaître, contrairement à nous, donc c'est peut-être pas un gros problème pour eux, mais nous, c'est pas le cas. Notre langue peut disparaître.
Ouais,
alors, autrement dit, on fait une mauvaise sélection des immigrants. Moi, je comprends les immigrants qui font ce choix-là. Probablement qu'à leur place, je ferais la même chose. Mais nous, comme collectivité, il faut choisir que des immigrants qui parlent déjà français. Sinon, on sait qu'ils ne vont pas, pour la grande majorité, évidemment, il y a des exceptions, mais pour la grande majorité, ils ne vont pas se franciser année après année. Toutes les études, incluant celle du vérificateur général du Québec, nous montrent que la francisation, c'est un échec. On est rendu au point, Mme Durocher, où on paye des immigrants pour aller prendre des cours de francisation. C'est quand même incroyable. Je veux dire, pourquoi on fait venir des immigrants qu'on doit payer pour apprendre le français? Mais je veux dire, comme choix collectif, c'est totalement ahurissant.
Mais ça me rappelle ce que vous dites, Monsieur Bassin, ça me rappelle ce qu'a toujours dit un ex-collègue à vous, d'une certaine façon, Jean-François Lisée, a toujours dit qu'il fallait que le Québec fasse comme l'Allemagne et comme plein d'autres pays à travers la planète qui exigent, avant même que une personne émigre au pays, qu'il puisse prouver qu'il a fait des efforts, c'est-à-dire qu'il a pris des cours et qu'il maîtrise au moins en partie la langue, sinon il ne met pas les pieds au pays et l'Allemagne se fait pas traiter de méchant pays xénophobe. Tous les pays qui appliquent cette règle-là ne se font pas traiter de méchants xénophobes. Pourtant, au Québec, quand on soulève ces questions-là, quand on dit il faudrait en effet que le français, qu'on fasse une sélection puis que les gens apprennent le français avant de venir ici, on se fait traiter de nationaliste arriéré, xénophobe et discriminatoire.
Oui, ben parce qu'il y a des gens, au fond, qui ne souhaitent pas que le Québec soit français. Ils veulent que le Québec soit bilingue et qui sont très contents de l'anglicisation actuelle du Québec, de sa plus grande bilinguisation à laquelle on assiste depuis déjà plusieurs années. Et donc, par conséquent, ils vont utiliser toutes sortes d'arguments spécieux ou même... vous savez, quand la loi 101 a été adoptée, là, on s'est fait traiter de nazis. Là, hein?
Je veux C'est dire, vrai. C'est pas nouveau. Mm-hmm.
Ouais. Donc il y a des gens pour qui, évidemment, tout ça est inacceptable quand le Québec, ça revient toujours au fait que quand le Québec affirme sa personnalité distincte au niveau collectif, culturel, ben là, évidemment, ça fait pas l'affaire de beaucoup de gens. Et donc, vous allez avoir les multiculturalistes canadiens, vous allez avoir la minorité anglophone, la minorité canadienne-anglaise au Québec, qui va évidemment ruer dans les brancards et nous accuser de ceci et de cela. Et donc évidemment, il faut pas du tout céder à ce genre de chantage là. C'est parfaitement légitime pour le Québec de faire ce genre de choix. Et on peut le faire. Disons qu'on peut le faire dans la portion de l'immigration que nous contrôlons, parce que le Québec ne choisit pas tous ses immigrants. Ça aussi, il faut le dire. Il y a quand même beaucoup d'immigrants qui rentrent au Québec par la filière fédérale, c'est-à-dire les réfugiés. Et aussi les regroupements familiaux. Et ça aussi, ça nous échappe. Et moi, je vais vous donner un exemple d'un commerçant dans mon quartier qui parle... lui, il a suivi les cours de français, mais il habite dans un ghetto, alors il n'a pratiquement pas besoin de l'utiliser. Alors bref, il se débrouille, hein, mais sans plus. Dès que vous sortez en dehors de ce qu'il doit dire pour opérer son commerce, là, je veux dire, son français devient tout à fait limité. Mais lui, il est venu ici, il vient d'un pays de l'ancien empire britannique, Il est venu ici parce que son père était déjà ici. Alors, son père a gagné le droit de faire venir son fils, qui lui-même a fait venir sa femme. Et donc, moi, je le blâme pas lui, parce que dans son pays d'origine, ça va très
bien
mal.
Sûr.
Et je comprends qu'il voulait venir ici. Mais comme choix collectif, c'est un très mauvais choix.
Oui.
Et donc, le fédéral, via le programme de la politique de réunification familiale, il y a beaucoup de gens qui rentrent au Québec qui échappent à tout critère de sélection au niveau linguistique.
Ouais.
Alors, ça, c'est aussi un problème.
C'est en effet un problème, et puis tant qu'à être dans les anecdotes personnelles, il se trouve que dans la famille Durocher-Martineau, on fait souvent livrer des repas, et moi ça me frappe, 99% du temps, les livreurs ne parlent pas un mot de français, et évidemment, ma tante 101, c'est-à-dire moi-même, je leur fais la morale à chaque fois, gentiment et poliment. Je leur dis que je trouve inacceptable qu'ils parlent pas français. Et à un moment donné, il y en a un qui m'a répondu, en anglais, évidemment, « I came to Canada, I did not come to Québec. » Parce que je lui ai dit, je lui disais, au Québec, on parle français. À Montréal, c'est une ville francophone. Et il m'a répondu, « I did not come to Québec, I came to Canada. » Canada is a bilingual country. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ce gars-là? C'est que, oui, vous avez raison, monsieur, c'est vrai.
Ben la réponse, c'est donc une raison, disons, supplémentaire de faire en sorte qu'il faut choisir que des immigrants francophones. Il faut arrêter de se leurrer avec cette idée qu'il y a une francisation qui fonctionne et qui va faire en sorte que ces gens-là vont apprendre le français. La seule francisation qui fonctionne, c'est les enfants d'âge scolaire, encore une fois.
Mm-hmm.
Mais ça, je le répète, c'est une infime fraction du total des immigrants. Alors, et là, la CAQ, sous prétexte qu'on manque de main-d'œuvre, c'est fascinant, on nous dit on manque de main-d'œuvre, alors que le chômage des populations immigrées est beaucoup plus grand que le chômage de la population, native. On nous dit on manque de main-d'œuvre, faut faire venir des immigrants, mais ça, c'est un argument complètement absurde parce que, disons qu'un immigrant arrive, là, votre livreur, disons, il va occuper un poste de livreur, ça, c'est très bien, là, parce que l'employeur, lui, il a pas envie de payer ses livreurs chers. Alors, quand il y a une main-d'œuvre immigrée qui arrive, elle est prête à prendre des emplois à des niveaux
pas bien
salaires
payés,
moins bien payés, voilà. Mais ce livreur, il va envoyer ses enfants à l'école, il va avoir besoin d'un médecin, d'un dentiste, etc. Donc, pour chaque poste qui est occupé par un immigrant, il y a d'autres postes qui sont nécessairement doivent se créer ailleurs dans le marché de l'emploi. Alors, cette idée, elle est totalement fausse, suivant laquelle les immigrants comblent un besoin de main-d'œuvre. C'est faux. Ça fait juste...
Ça crée un besoin de main-d'œuvre. Oui.
Ben oui, et pourquoi est-ce qu'il y a une pénurie de professeurs dans la région de Montréal? Il y a plusieurs raisons, mais moi, je soupçonne fortement que le fait qu'il y a énormément d'immigration à Montréal crée une pénurie de main-d'œuvre au niveau des professeurs. C'est pas encore là, je pense pas que ce soit le seul facteur, mais moi, je pense que c'est un des facteurs. Parce que, par ailleurs, ces immigrants-là, ils peuvent pas devenir enseignants, ils peuvent pas devenir médecins, ils peuvent pas devenir infirmières, parce qu'ils ont pas les diplômes.
Voilà.
Ils ont pas les diplômes reconnus pour occuper ces postes-là. Alors, mais ça, c'est très avantageux pour la compagnie de livraison de votre livreur, parce que là, eux, ils n'ont pas besoin de payer plus cher leur livreur, parce qu'il y a une main-d'œuvre qui rentre à chaque année, et ça déprécie les salaires, surtout dans les emplois bas de gamme, dans les emplois entrée de gamme.
Mais à ce moment-là, M. Bastien, est-ce que la solution, c'est pas en deux parties, c'est-à-dire, un, d'exiger, parce que vous dites qu'on fasse rentrer plus d'immigrants francophones, mais ça peut être aussi des gens qui parlent d'autres langues, mais qui ont suivi, parce qu'il y a plein d'instituts français ou de partout à travers le monde, où ils sont sur Internet, peu importe, qu'ils apprennent le français à l'étranger. Donc, est-ce que c'est pas deux choses? Premièrement, avoir ce critère-là que avant d'arriver au pays, vous avez appris la langue. Et deuxièmement, d'avoir une meilleure sélection des immigrants, c'est-à-dire d'aller chercher des immigrants qui ont plus de diplômes?
Oui, quand je dis francophone, là, faut comprendre le mot francophone au sens large, là. Non pas seulement de langue maternelle française, là, mais bien les gens qui parlent déjà français. Et évidemment, oui, il faut sélectionner les gens qui ont des bons diplômes dans des bonnes écoles, parce que ce que vous remarquerez, et c'est pas seulement anecdotique, parce que vous allez, on connaît tous des gens qui sont bien intégrés au Québec, et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces gens-là, issus de l'immigration récente, c'est que ce sont des gens bien éduqués et qui parlaient déjà français. Alors souvent, ça va être des gens comme ça qui vont partager nos valeurs, notamment nos valeurs laïques, qui vont naturellement, sans que le gouvernement n'ait à dépenser aucun dollar, sans aucun effort, de façon complètement naturelle, ces gens-là vont s'intégrer à la majorité francophone. Mm-hmm. Mais ça, c'est seulement une petite partie de l'immigration que nous recevons en ce moment. Alors, c'est sur ce créneau-là qu'il faut axer nos politiques. Et quand vous recevez cette immigration-là, ben ça renforce le fait français au Québec. Et ça doit être le but de notre immigration. L'immigration, ça n'a aucun impact sur l'économie du Québec. C'est une chose totalement fausse que grâce à l'immigration, l'économie québécoise va se mettre à croître, à devenir performante, à avoir toutes sortes d'avantages. Alors, si c'était vrai, le Japon serait un pays complètement non performant au niveau économique, parce que le Japon est le pays industrialisé où il y a le moins d'immigration dans le monde, et pourtant, le Japon est une puissance économique depuis des décennies.
C'est un très bon parallèle. C'est un très bon point, ça.
Vieillissante, et malgré sa population vieillissante, ben, les gens reçoivent leur pension à la fin de leur vie. L'économie japonaise est hyper performante et depuis très longtemps, et c'est pas demain que ça va se renverser. Et pourtant, le Japon est un pays qui reçoit, il ne reçoit pas d'immigration, le Japon. Donc derrière toute cette idée d'immigration, ça a tellement été dit souvent que l'immigration, c'est une solution à toutes sortes de problèmes. Alors, quand l'économie va mal, le chômage est élevé, on dit, ben voilà, ça prend plus d'immigrants pour relancer l'économie et faire baisser le chômage. Et là, quand le chômage est bas, ben on dit, ben, on est en pénurie de main-d'œuvre, donc ça prend plus d'immigrants. À un moment donné, vous entendez toutes sortes d'arguments, là. Ah oui, et à cause des immigrants, on est capable de soigner la COVID. Regardez le nombre d'immigrants dans le système de santé. Ben oui, mais je veux dire, il y a des immigrants dans tous les secteurs d'activité.
Mais oui.
Je veux dire,
j'avoue que c'est un drôle d'argument. Mais on même dans des médias sérieux, il y a des commentateurs très sérieux, là, je veux dire, dans les médias, je vais le dire, là, à la presse, c'est un argument qu'on a souvent entendu, mais je veux dire, c'est comme si on disait, il y a plein de domaines où les immigrants travaillent. Pourquoi dire parce que, mettons, il y a une forte proportion d'immigrants, mettons, chez les préposés aux bénéficiaires. Ah, s'il n'y avait pas eu les immigrants, on n'aurait pas réussi à sortir de la crise. Ben c'est parce que si ça n'avait pas été des immigrants, ça aurait été des gens de souche, mais de toute façon,
oui,
il y aurait eu des préposés
gens,
aux bénéficiaires.
Non, mais la presse,
drôle d'argument,
c'est vraiment... Le journal La Presse, pour moi, c'est vraiment... Quand il parle d'immigration, pour moi, ça devrait s'appeler la Pravda. Il n'y a pas un chroniqueur à la presse, il n'y a pas un article à la presse qui va jamais, d'aucune façon, moindrement, disons, s'interroger sur est-ce que ça se peut qu'il y ait trop d'immigrants? Est-ce que ça se peut que c'est pas toujours positif, l'immigration?
Ben, Francis Veil, quand même, des fois, dans la section économique, qui remet les choses en perspective avec des chiffres et tout ça, là. Je dirais que c'est le seul, là, qui a pas bu le coup.
Même Francis Veil, il dit, regardez, là, ça a eu des conséquences bénéfiques l'année dernière. Les immigrants ont contribué davantage qu'ils ont reçu en termes de programmes sociaux. Alors, ce qui était sûrement vrai, là, j'ai pas vérifié ces chiffres, mais est-ce que je lui ai déjà dit, parce que je le connais bien, Francis Veil, là, je veux dire, j'ai grandi avec lui, son frère était un de mes meilleurs amis, c'est que, oui, des fois, à court terme, on peut voir des petites variations économiques, et ça peut être négatif aussi, en passant, ça peut être positif ou négatif, mais l'immigration, toutes les études le montrent, à long terme, l'immigration n'a aucun impact positif pour l'économie d'un pays de façon durable, de façon importante, ni par ailleurs négatif, faut le dire aussi. Ça va pas grever nos programmes sociaux, ça va pas... Il y a énormément d'études sur l'immigration, c'est un sujet extrêmement fouillé, et donc voilà, alors
Ben, on va s'arrêter là, on va s'arrêter là, Frédéric Bastien, mais j'invite tout le monde à aller régulièrement voir sur mon compte Facebook les différentes réflexions que vous partagez. Merci beaucoup d'être venu vous pencher sur cette étude très inquiétante quand même de l'OQLF, et ça mérite en effet réflexion. Frédéric Bastien, historien et ex-candidat à la chefferie du PQ. Merci beaucoup, oui. Monsieur Bastien.
Merci, Mme de Rocher. Au revoir.
La langue m'a fourché. Qu'est-ce que vous voulez?
PK.
Ouais. PK, le PQP, non, c'est pas ça. Merci beaucoup.
Voilà. Au revoir. Au montage, ça, ouais.
Non, on va tout garder. Vous allez tout garder. Il n'y a pas de téléphone rouge,
ben,
à cube.
Bon, ben, alors, j'écoute ça avec encore plus d'intérêt.
Merci.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Comme tous les vendredis, on passe la semaine en revue avec Jean-François Lisée, ex-chef du PQ, journaliste, chroniqueur, animateur, etc., etc. Et ce qui a marqué la semaine, pour les gens en tout cas qui s'intéressent aux Français, qui aiment le français au Québec, c'est cette histoire hallucinante de la Banque Laurentienne, qui est quand même la troisième banque en importance dans la province, dont l'Assemblée générale s'est déroulée à 99,9% en anglais, et dont la dirigeante est encore, plusieurs mois après son arrivée en poste, incapable de nous parler en français. Donc, on en parle avec Jean-François.
Bonjour, Sophie.
Comme je le disais à Pierre Nantel cette semaine, imagines-tu, toi, qu'en Espagne, la troisième banque d'importance en Espagne, qu'on nomme à sa tête quelqu'un qui n'est pas capable de dire « Hola, ¿qué tal, cómo estás? »
Ben là, Madame Llewellyn pouvait dire « Hola, ¿qué tal? » mais pas « ¿Cómo estás? » en français.
Voilà, exactement.
Seulement deux mots, pas trois. Alors peut-être qu'à la prochaine Assemblée générale l'an prochain, il y aura un troisième mot. Ce sera une augmentation de 50% de sa capacité d'engager en français. Écoute, ce qui est extraordinairement triste dans cette affaire, c'est que la Banque Laurentienne est non seulement une banque québécoise, mais c'était la première institution d'épargne québécoise avant Desjardins. 50 ans avant Desjardins, donc en 1840.
Intéressant.
C'était pas n'importe quoi. Alors, les banques anglophones existaient déjà. Et c'était une façon pour, surtout les ouvriers, les classes industrielles, disait-on, d'avoir une banque à eux qui leur parlerait dans leur langue. Parmi les 60 notables qui ont créé la banque, il y avait, tiens-toi bien, Louis-Joseph Papineau.
Non.
Hippolyte Lafontaine.
Non.
Georges-Étienne Cartier. C'était la base, c'est même les trois familles politiques québécoises étaient ensemble. Celui Cartier qui nous a entrés dans la Confédération sans qu'on le veuille. Louis-Joseph Papineau qui a essayé de faire notre indépendance. Et Lafontaine, qui a été le réformiste qui nous a donné qui s'est battu évidemment pour le français dans les assemblées imposées par les Anglais, et qui nous a donné le gouvernement responsable. Alors, c'était une énorme affaire que surtout les ouvriers canadiens français aient enfin accès à leur banque. Ensuite, un demi-siècle plus tard, ça a été à Lévis Desjardins, notre deuxième institution francophone. Et de voir si ces gens-là, dans leur tombe, savaient que leur banque, on n'y parle que l'anglais, ils se retourneraient un certain nombre de fois. Hein? Cette banque-là, depuis un certain nombre d'années, n'est plus un fleuron québécois. Il y a eu des problèmes nombreux et sa stratégie d'expansion, elle est non québécoise. C'est pas d'hier que, par exemple, le conseil d'administration de la Banque Laurentienne se tient en anglais depuis au moins 5 ans. Ils ont fait des acquisitions à Toronto importantes, ce qui fait que, alors que la banque était à 80% québécoise, maintenant elle est à 50% québécoise, ce qui ne justifie rien. Je veux dire, Desjardins a fait des acquisitions dans le reste du Canada de façon importante, et au siège social de Desjardins, puis l'Assemblée générale de Desjardins est toujours en français. Mais c'est clair que depuis un certain nombre d'années, cette banque-là, sa direction se dit « Notre avenir, c'est pas le Québec. » Le Québec, pour nous, le Québec, c'est le passé. Notre avenir, c'est Toronto. Notre avenir, c'est le reste du Canada. Et donc, il y a un manque de respect pour ceux qui ont créé, ceux qui ont fait bâtir et ceux qui ont essentiellement permis à la banque d'exister, parce qu'il y a encore la moitié du portefeuille de la banque des épargnes qui sont tenues par les Québécois francophones en très, très grand nombre. C'est pas la banque des non-francophones du Québec. Et là, c'est à la fois d'une tristesse, un manque de respect, une gifle, finalement, à ceux qui ont fait cette banque.
Qu'est-ce que tu penses de l'opinion de Paul Saint-Pierre Plamondon, donc qui est le chef actuel du Parti québécois, qui lui dit, ben, il invite les clients à boycotter l'institution. Moi, j'ai toujours un malaise avec le mot boycott, parce que je pense évidemment aux gens, aux employés, aux gens qui travaillent là, c'est leur gagne-pain. J'ai toujours un malaise avec ça. Est-ce que c'est la solution de voter avec notre portefeuille?
Ben, on a toujours le droit de voter avec le portefeuille, c'est sûr. Je serais curieux de savoir, avec ou sans ce que Paul Saint-Pierre Plamondon a dit, s'il y a des gens qui sont choqués par ça, puis ça arrive très souvent. Mm-hmm. Et même s'il n'est pas certain que le boycott soit une bonne idée ou ait un impact important, il me semble que on devrait avoir un signal de la Banque Laurentienne, parce que la crainte de perdre des clients au Québec devrait être assez forte pour les obliger à faire une déclaration qui envoie Mme Loéline au Saguenay pendant tout l'été, enfin, si elle a le droit de changer de zone, en tout cas. Il faut absolument qu'ils envoient un signal à leurs clients francophones, parce que c'est normal qu'il y ait un prix économique à payer pour ne pas respecter ta clientèle. C'est normal. Mm-hmm.
Mais je voudrais te soumettre l'opinion suivante. Est-ce que c'est possible qu'au Québec, les gens soient prêts à signer des pétitions pour empêcher ou encourager le fait que Marie-Pierre Morin soit en nomination au Gala de l'artiste, mais qu'ils ils feront jamais de pétition pour réclamer que la direction de la banque Laurentienne s'exprime en français? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce que monsieur et madame tout le monde, ça le touche vraiment que ça se passe en anglais dans l'Assemblée générale? On a une telle illittératie financière, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent même pas c'est quoi une Assemblée générale, qui savent absolument pas comment ça fonctionne dans les banques, puis le fait que ça se passe en anglais, ça leur passe peut-être 8 pieds par-dessus la tête.
Ben, je pense que là, l'illitératie financière, c'est vrai, moins que pour nos parents, mais c'est vrai quand même. Mais la question du français, elle reste très à fleur de peau. Les gens comprennent qu'une banque francophone est en train de parler anglais. Tout le monde comprend ça. Tout le monde trouve ça épouvantable. J'étais intéressé de voir, par exemple, tout le débat autour d'Amir Attara puis le Québec bashing. Est-ce que c'est juste les médias qui en parlaient, ou est-ce que la population en général était au courant? Dans le sondage hebdomadaire de Léger de la semaine dernière, ils ont posé la question, et les 2/3 des Québécois considéraient que la question du Québec bashing était très importante. Alors là, ça montrait que ça avait vraiment pénétré, ça a vraiment percolé, les gens sont au courant, sont pas contents, ils considèrent ça comme quelque chose de très important. Et donc, toutes ces questions-là sur le français, et peut-être plus là, depuis un an qu'on en parle davantage, les gens sont plus à l'écoute. Si on faisait une pétition, j'ai pas de doute qu'elle serait assez courue. Mais je te pose la question parce que j'ai vu la pétition contre Marie-Pierre Morin au gala. Il y en a une pour. C'est vrai qu'il y en a une pour?
Oui, ben en fait, il y en a une pour. C'est qu'il y en a une qui a été faite en 2020 pour le maintien de sa nomination, et les gens de 2021 s'en vont signer. Et c'est pour ça, hier, je regardais ça, parce que quand tu vas sur le site de change.org, ben, tu le vois au fur et à mesure que les gens signent la pétition. Donc, moi, j'ai passé, mettons, 15 minutes sur le site de la pétition, puis je voyais, il y a 15 secondes, Joanie a signé la pétition. Donc, les gens, aujourd'hui, signaient la pétition qui, en 2020, réclamait qu'elle soit en nomination, mais c'était au Gala Artiste de 2020, donc les gens étaient comme mélangés dans leur pétition.
Parce qu'il y a... Donc, on peut pas savoir s'il y en a plus qui veulent qu'elle soit là ou il y en a plus qui veulent pas qu'elle soit là.
c'est compliqué.
Moi, je veux. Moi, je signerais la pétition pour qu'elle soit là, comme toi, d'ailleurs.
Ben comme moi, parce que tout simplement c'est le vote populaire. Donc qui sommes-nous pour dire aux gens qui ont répondu au sondage de Léger, qui sommes-nous pour leur dire vous avez pas d'affaire à nommer cette femme-là? Je veux dire, c'est le vote populaire. Si les gens, si c'était mettons au gala des Gémeaux et que c'était l'Académie qui avait mis Marie-Pierre en nomination, c'est autre chose. Mais là, c'est le vote populaire. C'est comme si on disait au résultat des élections, bon, on veut une pétition pour que le candidat de la Prairie, on lui retourne, son vote. Mais c'est parce que les gens ont voté. Je veux dire, tu peux ne pas être d'accord avec le vote, mais bon. Je pensais jamais parler de Marie-Pierre Morin jour avec l'ex-chef du PQ.
Ah non, mais moi, ça m'intéresse parce que ça fait partie là des excès de la cancel culture. Moi, je pense que la seule question qu'il faut se poser, c'est... Puis même si c'était l'Académie, est-ce que Marie-Pierre Morin est une des 5 actrices de soutien qui a fait la meilleure performance dans un drame l'an dernier? C'est la seule question. Ensuite,
absolument.
Son problème, sa controverse, la controverse a existé, elle s'est excusée, elle s'est retirée d'un certain nombre de choses. C'est pas... les Français appellent ça la double peine. T'as d'abord ta peine pour avoir fait quelque chose personnellement, puis là, on te donne une double peine en plus... professionnellement. T'sais, comme moi, mes enfants, je leur disais, écoutez, si vous dites-moi ce qui s'est passé à l'école, je vais pas vous punir une deuxième fois. Si vous avez été puni, je veux le savoir, je veux savoir pourquoi, mais je vous garantis qu'il n'y aura pas une deuxième punition.
C'est bon, ça.
C'est comme ça que je savais pourquoi mes enfants étaient punis.
C'est bon. Alors, pas de double peine, ça, c'est sûr. J'ai écrit je ne sais trop combien de chroniques là-dessus, mais c'est tout à fait ça. Je veux dire, est-ce que c'est une bonne comédienne ou pas? Et on n'a pas à faire rentrer d'autres critères. Écoute, il y a un deuxième sujet dont tu voulais absolument nous parler, c'est la loi 101 et le cégep. Pourquoi tu voulais nous parler de ce sujet-là?
Parce que cette semaine, il y a un certain nombre de gens qui se rallient à cette position-là. Donc, la loi 101 au cégep, c'est de dire que seuls les étudiants qui sont allés au primaire et au secondaire en anglais pourraient aller au cégep en anglais. Donc, les francophones et les allophones qui sont allés dans le système scolaire francophone ne pourraient pas y aller. Cette semaine, il y a Emmanuel Latraverse dans son journal qui a dit qu'elle était pour, mais aussi Carl Bélanger du NPD, Carl Vallée, qui est lié au Parti conservateur, qui ont dit qu'ils étaient pour. Christian Dufour, qui a dit qu'il était pour. Donc, il y a un genre de ralliement à ça. Et moi, ma position, c'est que c'est important d'agir fortement pour préserver le français, mais cette mesure-là, ça a l'air d'une grosse mesure, parce qu'on en débat depuis des décennies, mais c'est une demi-mesure, parce que le problème principal qu'on a, c'est qu'une fois que les cégepiens sont diplômés et qui vont dans le marché du travail québécois, les diplômés anglophones, des cégeps anglophones parlent tellement mal le français qu'ils imposent l'anglais à leurs collègues francophones. Récemment, l'UQLF nous a montré que dans le tiers des cas, c'est ça qui se passe. Ils parlent anglais parce qu'il y a des collègues qui tiennent à parler l'anglais, puis surtout parce qu'ils ne le connaissent pas. Et donc, le problème qu'il faut régler, c'est les anglos et les allos anglicisés, il faut à eux leur enseigner le français, ce qu'on ne fait pas maintenant. Et moi, ma solution pour ça, c'est que tout le monde aille au cégep francophone, pas seulement les francophones, mais surtout les anglophones et les allophones, puis de transformer Dawson, pas le fermer, le transformer en cégep francophone. Donc, c'est une proposition qui est beaucoup plus ambitieuse que celle de la loi 101 au cégep, mais qui, en plus de faire en sorte que tous nos cégepiens, ça veut dire, les cégepiens, ça veut dire toutes nos élites techniques et professionnelles pour toujours, passe par un moment de leur scolarité qui est totalement en français, et ça donne le signal politique extrêmement fort que la nation québécoise a décidé que pour le français, on allait faire en sorte que tout le monde a au cégep francophone. Là, c'est une proposition qui est évidemment extraordinairement controversée, qui va avoir beaucoup de gens qui vont être contre, surtout chez les anglophones, mais ils vont être contre toutes les propositions.
Ben voilà.
Aussi bien de prendre celle qui fonctionne.
C'est là qu'on reconnaît le sens de l'humour de Jean-François, c'est que... J'aime ça quand tu dis des choses comme ça. De toute façon, on sait qu'ils seront pas contents, puis qu'il va y avoir des éditoriaux dans la Gazette, puis qu'à CJD, ils vont déchirer leur chemise, puis qu'à CTV, ils vont faire des reportages alarmistes. Et que dire de ce qui va se dire, évidemment, dans le reste du pays. Mais donc, autant, comme tu dis, autant faire des mesures qui fonctionnent. C'est en effet un très, très bon point. Jean-François, écoute, je suis vraiment contente qu'on se soit parlé de Marie-Pierre Morin.
Ben, moi aussi. Moi aussi. Alors, s'il y avait une pétition, je la signerais. Tu sais? Voilà. Voilà, bon. Moi, tu sais que je suis au mordu de politique. J'essaie de ne pas être au mordu dans les bars. Il faut faire une
distinction. Oh! Attention, mesdames et messieurs, on a ici une blague. C'est subtil comme blague, Jean-François, parce que non seulement tu fais une blague sur les morsures, mais en plus, tu trouves le moyen de plugger, comme on dit en bon français, le fait que tu es chroniqueur dans une autre émission, dans un autre poste à la télé. Fait que c'est pas grave.
Ouais. Mais, c'est ça.
C'est très bien envoyé. Écoute, merci beaucoup
simplement pour dire qu'on n'a pas eu vent de récidive depuis la dernière morsure. Alors je pense que il y a suffisamment de temps qui est écoulé. Le deuil, on peut finir notre deuil de Marie-Pierre Morin.
Oui, puis écoute, c'est que une des pétitions contre donc cette nomination faisait un lien, mais vraiment là, tiré par les cheveux, entre cette nomination-là et la vague de féminicide qu'il y a au Québec. Alors, moi, ce que je dis, c'est, écoutez, votre opinion est tout à fait légitime. Vous pouvez tout à fait être blessé, offensé, offusqué de cette nomination-là, mais ne faites pas un lien entre ça et une vague de féminicide. C'est un affront et une insulte aux 8 femmes qui sont tombées sous le coup de conjoints violents. À un moment donné, il faut pas tout mélanger, et comme le disait Talleyrand, tout ce qui est exagéré devient insignifiant. Il faut quand même garder une certaine mesure. Jean-François, merci beaucoup. C'est toujours sympathique de finir la semaine avec toi. Je te souhaite une excellente fin de semaine. Es-tu vacciné, toi?
Oui, j'ai été vacciné parce que je suis très vieux, évidemment. Les gens pensent que je suis jeune, mais je suis vieux. La semaine dernière, jeudi la semaine dernière. Toi?
Bon, moi, c'est hier soir parce que j'ai 55 ans, donc j'y avais droit. Et je suis fière.
T'es allée à AstraZeneca?
Je suis allée à AstraZeneca. J'ai été à AstraZeneca hier à 5h-20. Et jusqu'ici, je suis encore vivant. Donc, suite au prochain épisode.
J'espère que tu seras là la semaine prochaine. Je vais vérifier.
On croise les doigts. Merci, Jean-François.
Salut.
Jean-François Lisée, qui était dans une forme dangereusement bonne aujourd'hui, donc ancien chef du PQ, que vous pouvez entendre donc 2 fois par semaine sur les ondes de Cube Radio.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
De la culture aux affaires publiques.
Vous écoutez
Sophie Durocher.
Cube Radio.
Depuis le début de la semaine, c'est rien que des mauvaises nouvelles pour le milieu culturel. On a d'abord appris que dans les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas, on passait d'une distanciation d'1,50 m à 2 m, ce qui veut dire une réduction énorme quand même de la capacité d'accueil. Et puis hier soir, on a appris donc que à Montréal et Laval, le couvre-feu passait de 21h30 à 8h. J'avais envie d'en parler avec mon ami ami Vincent Guzzo, qui est chef de la direction des cinémas Guzzo. Vincent, bonjour.
Comment ça va?
Ça va très bien. Écoute, j'avais envie de t'en parler, Vincent, parce que ben toi, t'as un petit peu été un précurseur dans ce sens-là. C'est que toi, t'avais dit, il y a plusieurs semaines de ça, moi, je ne rouvre pas mes cinémas parce que les conditions ne sont pas optimales. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, je vous l'avais dit?
Ben, je dis pas nécessairement ça, mais je dis, je vous l'avais dit, ouais, pas le mais je vous l'avais dit, oui, parce que faut comprendre que, tu sais, j'ai ce débat-là souvent avec du monde qui dit, ouais, mais là, vous avez le droit d'ouvrir. Non, non, les restrictions font de sorte que c'est une permission d'ouvrir camouflée, dans le sens que, on le sait, là, les cinémas de Montréal, qui sont pas les cinémas de centre-ville, n'ouvrent pas à midi, tous les jours, 7 jours semaine, durant durant l'année scolaire. Donc, ça voudrait dire que si vous mettez un couvre-feu à 8 heures, ça veut dire que quand j'ouvre le cinéma à 6 heures pour commencer à vendre des billets et le film devrait commencer à 7 heures, je peux pas le faire. Ça voudrait dire que 5 jours semaine, sur 7, je suis fermé, je peux pas ouvrir. Donc, ça fait pas de sens. Pourquoi je devrais, moi, ouvrir, amputer un paquet de frais pour tout ça, et après avoir juste samedi, dimanche qui va opérer? Deuxièmement, là tu me dis, pas d'arcade. OK, ça représente 10% de notre chiffre d'affaires, 15% dépendamment des cinémas. C'est beau, on est capable de vivre avec ça. 50% de capacité, c'est beau, on est capable de vivre avec ça aussi parce qu'on va mettre le même film dans plusieurs salles. Mais là, 2 mètres, là, je veux que le monde comprenne, 2 mètres de centre à centre d'un individu, c'est 2 bains et demi. 2 bains et demi, ça veut dire 3 bains. Donc là, c'est plus 50% qu'on peut atteindre, c'est moins. Mais là, on me dit 2 mètres, ça voudrait dire que ma rangée, qui est distancée de 48 pouces, mais ça non plus, là, ça ne rencontre pas le bain. Donc là, il faut que je saute une rangée sur 2. Mais là, je suis à 25%. Pas de popcorn, pas de masque en tout temps. Et, tu sais, ça commence à être un logistic nightmare, comme on dirait en anglais.
Oui, un cauchemar donc, de logistique, oui.
Exactement. Et le pire de tout ça, c'est que c'est comme si on fait de l'écoute sélective. Tu sais, premier ministre.
Qu'est-ce que tu veux dire? Ouais.
Ben, écoute, le premier ministre l'avait dit dans une entrevue, il a dit, j'ai compris, M. Guzzo m'a expliqué qu'il a besoin de savoir 3 semaines à 4 semaines avant. Donc, je vous annonce aujourd'hui l'ouverture pour le 26 février, là, mettons. Oui, mais il avait oublié que si Montréal ouvrait pas, les distributeurs américains et même les distributeurs québécois perdent 60% à 70% de potentiel de revenus. Donc, ils ouvriront pas de film, ils attendront plus tard. Donc, vous condamnez les cinémas en région à ouvrir avec des vieux films. Et on a vu au mois de juillet ou septembre de l'année passée qu'est-ce que ça a donné. Comprenez? Et même quand il a dit, puis il dit ça souvent, il dit, écoute, nous, on donne des allègements, puis on n'est pas comme l'Ontario qui a fait un gros lockdown. Ouais, mais tu sais, se comparer, c'est une affaire. Premièrement, il faudrait se comparer avec ceux qui sont mieux que nous et pas pires que nous. Mais deuxièmement, il faudrait aussi réaliser que l'Ontario a pas fermé d'une manière abrutie depuis le mois d'octobre. Tous les commerces ou tous les cinémas, ils ont ouvert. Et l'OMS a déjà répété que les lockdowns, c'est un geste extrême et ça doit être de courte durée. Une semaine, 2 semaines. Donc, c'est ça qu'on devrait apprendre. T'sais, il faut pas jouer à l'avocat et dire, bon, moi, j'ai un client à défendre, puis coûte que coûte, je vais trouver des arguments aussi niaiseux qu'ils peuvent être pour justifier sa défense. C'est pas ça, là. C'est pas ça, opérer une province et tout ça, là. Et tu le sais, là, mon sentiment, c'est que, écoute, je l'aimais bien, là, M. Legault, puis je l'aime peut-être encore bien comme personne, mais comme gestionnaire de province, là, on va dire qu'on fait dur, là, ces temps-ci, là.
Oui, mais qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais ministre de la Santé, si t'étais à la place de Christian Dubé et que t'écoutais les recommandations de la santé publique d'Horacio Arruda? Penses-tu que tu ferais une meilleure job que Christian Dubé?
Ben, écoute, tu l'as dit. Qu'est-ce que je ferais si je serais ministre de la Santé et j'écouterais les recommandations? Moi, premièrement, je les écouterais. Parce que, faut se rappeler, dans les recommandations, c'est clair. Il n'y a pas de fermeture des salles de cinéma au mois d'octobre, au mois de novembre, au mois de décembre. Donc, on
c'est vrai qu'il ne le recommandait pas. T'as raison. Ça, c'est important de le spécifier.
Et donc, on ne l'écoute pas.
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, François Legault est allé plus loin, a été plus restrictif et plus contraignant que les recommandations en tant que telles de la santé publique. Ça, c'est vrai, t'as raison là-dessus.
Bon, et le problème avec ça, Sophie, c'est que, et j'ai fait le parallèle, j'aime faire ça parce que ça taquine un petit peu les médias québécois, là, je fais toujours un lien avec la nourriture. Puis j'ai donné comme exemple à quelqu'un, j'ai dit, tu sais, si ma mère, elle te donne une recette pour faire un tiramisu, puis il y a 5 ingrédients avec 5 quantités là d'ingrédients, puis toi, tu décides de changer la quantité des ingrédients ou tu modifies les ingrédients, que donc c'est les recommandations, tu réalises qu'à la fin, tu vas pas avoir un tiramisu, là. Tu vas avoir quelque chose d'autre. Et c'est ça le problème, c'est que...
Tu vas avoir un tiramimou.
Exactement. Donc, la santé publique, ça fait des recommandations basées sur santé physique, santé mentale, et elle doit prendre en considération la santé économique parce que la santé économique impacte la santé mentale impacte la santé physique. Donc, quand on vient prendre le plan d'action, puis on le modifie, et c'est pas pour manquer de respect là, M. Dubé, là, hein, mais c'est un comptable avec zéro expérience médicale, puis on vient là, puis on essaie après de nous dire à la Donald Trump, hein, purement comme Donald Trump faisait, dire, moi, j'ai fait une crème de bonne job, j'ai sauvé des vies, si ça n'avait pas été pour moi, hey, on l'a vu avec qu'est-ce que Donald Trump faisait, que c'était tout des mensonges. C'est la même chose qu'on est en train d'avoir de notre premier ministre, à se vanter qu'il a sauvé des vies.
Vincent, es-tu en train de comparer François Legault et Donald Trump et de dire que François Legault a menti aux Québécois?
Ben, je m'excuse, quand il a dit au mois d'octobre qu'on écoute les recommandations et on suit les recommandations, puis la fermeture des cinémas puis des restaurants puis tout ça était basé sur la recommandation, puis après il a admis au mois de décembre quand Arruda en Assemblée nationale a dit j'ai jamais demandé la fermeture des restaurants, puis là qu'est-ce qu'il a dit, au lieu de dire oui je vous ai menti parce que je veux vous infantiliser, au lieu de dire ça il a dit hey dans le fin fond c'est moi le boss. C'est pas mal arrogant, ça, comme ça, là. Puis c'est comique parce qu'on associe toujours cette manière d'agir-là à des patrons de grandes corporations que c'est juste du cash. Ça pense juste à de l'argent. Mais la vérité, là, c'est qu'on a un premier ministre qui nous a dit ouvertement, c'est lui le boss. Donc, il s'assume comme boss. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il s'assume dans les responsabilités des erreurs qu'il a fait? Est-ce qu'il s'assume dans les conséquences négatives sur la santé mentale d'avoir fermé pendant 5 mois, et je sais pas pourquoi, là, à tous les événements religieux? Hein? Donc, Noël, Pâques, ça devient toujours un gros problème. Faut tout fermer, faut toujours rappeler au monde, là, que c'est pas important de célébrer notre foi ou rien. Là. C'est comme s'il s'en prend un petit peu. Et tout ça, parce que dans le fin fond, on a un problème dans les maisons. Le monde n'écoute pas dans les maisons. Mais vous savez, quand on écœure le monde au point de les traiter comme des ados, ben ils agissent comme des ados. Puis les ados, ils ont l'attitude de contester, de pas écouter, de pas suivre les règles. Parce que ça fait partie de grandir, ça fait partie de leur cheminement de vie. Mais
parlant de traiter les gens en ados, j'aimerais que tu me parles de la façon dont la ministre de la Culture, Nathalie Roy, t'a traité hier. Vous aviez comme une rencontre en Zoom. Puis j'ai entendu dire que t'avais pas tellement aimé la façon dont elle t'avait traité. Raconte-nous donc.
Bon, c'est pas que j'ai pas aimé. J'ai trouvé comique là, que dans un Zoom, la première chose qu'elle a dit en commençant son Zoom, c'est de dire « Je suis content de vous avoir là. Je vois M. Goudzot qui m'a traité de menteuse, etc., etc. » Donc, elle a pris l'opportunité dans 15 minutes de Zoom avant la conférence de presse du premier ministre de me faire un reproche, disons, là, comme tel. Et j'ai juste trouvé ça comique, considérant que il y avait plein d'intervenants du milieu de la culture. Mais c'est correct. Je veux dire, ça démontre l'enfantillage ou le côté sensible des membres de la CAQ. Et quand je l'ai appelée une menteuse, je l'ai appelée une menteuse parce qu'elle a dit que c'était la santé publique qui avait recommandé le port du masque à 100% dans les salles de cinéma. Et ça, c'est pas vrai. Okay? Le jour avant, la conférence de presse, nous, on a eu des discussions avec la santé publique, puis c'était clair qu'on réouvrait avec les mêmes conditions qu'au mois de juillet ou septembre, sauf que c'était un masque de procédure au lieu d'un couvre-visage. C'est tout. Et puis, il y avait un couvre-feu à 8 heures. C'était les seules deux différences. Donc, le fait que les restaurateurs se sont plaints, puis le fait que la ministre de la Culture dit « ben il faut quand même être juste avec les restaurateurs », puis dans le fin fond, ça s'appelle un cinéma, ça, là, c'est baveux. C'est baveux et c'est essayer de distorcer un petit peu la vérité. Okay. Et donc, pour moi, quand on change la vérité, ben on frôle les mensonges.
Donc, tu reviens encore sur cette affaire-là de la vente de popcorn. C'est que tu affirmes donc que la raison pour laquelle on a interdit la vente de nourriture dans les cinémas, c'est pour pas être injuste envers les restaurants.
C'est parce que les restaurants ont, je te dis mieux que ça, les restaurants ont réagi à l'annonce du premier ministre et après le fait, ils ont fait un changement et le décret a été modifié pour refléter comme si c'était pas un changement, comme si c'était d'avant. Ça, là, c'est un fait. Là. Ça, là, et qu'on ressort les recommandations avec la signature cavardée pour une raison que je comprends pas. La signature de M. Arruda, du docteur Arruda, on la connaît. Hein? Pas de raison de la cavarder. Et il n'y a pas de timestamp sur cette recommandation-là. C'est la seule recommandation qui n'a pas une date et une heure précise de quand elle a été acceptée, parce que c'est après le fait. Parce que ça serait comique si on voit un date stamp qui donne 10 heures après la conférence de presse.
La conférence de presse.
Exactement.
Bon. Très rapidement, Vincent, il nous reste 30 secondes. Tu ne regrettes pas, donc, d'avoir gardé tes cinémas fermés?
Il n'y a rien dans la vie que je regrette. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça m'a appris quelque chose. Donc, ça m'a appris qu'encore une fois, se tenir debout envers des injustices, c'est à la fin, à court terme, ça fait mal. Mais à long terme, t'en gagnes en fierté et en honnêteté et en transparence de quitter et de l'image de quitter.
Bon. Vincent Guzzo, donc CEO, PDG des cinémas Guzzo et de toutes sortes d'autres entreprises Guzzo. Puis si on te suit sur les médias sociaux, on sait que du popcorn, t'en vends pas dans tes cinémas, mais t'en vends en ligne, on peut se procurer. Il y a toutes sortes de saveurs, là, barbecue, machin chose. Le plus gros vendeur dans ton...
Sriracha.
Au truffe, oui. Bon. C'est quel le plus gros vendeur, vite, là?
Pour l'instant, le plus gros vendeur, c'est le Choco Nana, qui est chocolat et banane. Mais après, il y a
dans
aussi
du popcorn.
Le sriracha.
OK, oui, ben oui, je l'essayerai, non, puis je raconterai aux auditeurs de Cube.
C'est très, très le fun.
Bon, le popcorn choco-banane de Mr. Sunshine. Merci beaucoup, Vincent Guzzo.
Merci à toi, Sophie. Bye-bye.
Vous aurez compris, bien sûr, que la raison pour laquelle je le tutoie, c'est qu'on se connaît dans la vie de tous les jours. Je suis toujours très transparente dans ce dossier-là. Alors, c'est comme ça que se termine l'émission. J'espère que ça vous a plu. Vous savez que vous pouvez toujours réécouter segment par segment nos émissions sur le site de Cube Radio. Je vous embrasse, je vous remercie d'avoir passé la semaine avec nous, puis bonne fin de semaine. Il y a une super bonne programmation à Cube aussi en fin de semaine, puis nous, on se retrouve lundi. Merci, au revoir.
Cube Radio.